RVE, bonne matinée. Il est 10h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour, bonjour à tous. La rétrospective de votre actualité de la semaine, une actualité policière marquée par la colère, voire plus, de la police. Un parfum de mutinerie flotte dans les rangs de la police qui a manifesté quasiment tous les soirs de la semaine partout en France et en particulier sur les Champs-Élysées où ils étaient à chaque fois plusieurs centaines. Le symbole est fort. Parfois avec leurs véhicules de service sérigraphiés, gyrophares, avec leurs uniformes ou leurs brassards de police, demandant plus de fermeté alors que leur vie sont de plus en plus exposés, ils sont des cibles de plus en plus des insultes et aussi des cibles à abattre, comme ce fait divers de Viry-Châtillon il y a une quinzaine de jours. Coïncidence d'ailleurs, cette semaine encore, des policiers ont été attaqués au cocktail Molotov à Vénissieux, en banlieue lyonnaise, par une quantaine d'agresseurs, mais cette fois-ci sans faire de blessés. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve affirme comprendre l'exaspération, François Hollande réaffirme son soutien. Alors des mots pour l'instant. Cette semaine, la semaine prochaine, le patron des policiers, Jean-Marc Falcon, fera des propositions à Bernard Cazeneuve sur des moyens matériels supplémentaires pour les policiers. On a parlé politique aussi bien sûr cette semaine avec les élections présidentielles et deux enquêtes d'opinion qui donnent encore Emmanuel Macron plutôt bien positionné pour une conquête de la magistrature suprême. Emmanuel Macron devant tous les autres candidats de gauche à l'élection présidentielle avec 27% des Français qui pourraient voter pour lui contre seulement 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Seulement 12% pour François Hollande. Manuel Valls, 18%. C'est un sondage Elab. Et puis Emmanuel Macron, qui fait mieux que François Hollande, aux yeux de nombreux Français, selon un autre sondage Odoxa, 49% estiment que l'ex-ministre de l'économie ferait un bon chef d'État, tandis qu'ils ne sont que 13% à penser que François Hollande ferait un bon chef d'État. Tous pourris, plus d'un Français sur deux, 54%, pensent que les personnes exerçant des personnalités, des responsabilités importantes ou ayant du pouvoir sont pour une grande partie d'entre elles corrompues, sondage Harris Interactive. En tête des responsables jugés les plus corrompus, selon les Français, les parlementaires, français ou européens, et le pouvoir exécutif national, tous à plus de 73%. On parle argent avec une collectivité sur deux en France qui prévoit de réduire ses effectifs face à la baisse des dotations de l'État contre seulement une sur quatre l'an dernier. Argent toujours, un secteur qui lui ne connaît pas la crise, c'est celui de la sécurité en France. Plus 30% d'augmentation dans le secteur en 5 ans. Évidemment, les questions de terrorisme avec les attentats expliquent cette forte hausse. La taxe attentat qui va augmenter sur les contrats d'assurance passant de 4,30 à 5,90 €. Il faut réapprovisionner le fonds en 2 ans a été particulièrement sollicité depuis sa création en raison des attentats commis en France. Argent toujours, le gouvernement a lancé un site internet pour expliquer la réforme du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, prélèvementalasource.gouv.fr, censé entrer en vigueur au 1er janvier 2018 mais qui suscite des réticences. Le prélèvement à la source prévoit que l'impôt sur le revenu est retenu sur le salaire par l'entreprise.
La météo sur RVE 103.7. Sachez que le temps sera aujourd'hui variable avec quelques passages nuageux, quelques rares éclaircies et dans l'après-midi de possibles averses. Les températures actuellement 5-6 degrés, 12 degrés dans l'après-midi. Vous écoutez RVE tout de suite, c'est le sport, c'est avec Philippe Carnus.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnus.
Et oui, ravi de vous retrouver, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On avait parlé roller la semaine dernière. On va parler vélo ce matin avec notre invité, un homme très occupé actuellement comme nous, le président de la section de Poigny, Rambouillet, Olivier Bourdin. Olivier, bonjour. C'est vrai qu'il y a une actu vélo qui se bouscule en cette fin de saison.
Oui, bonjour à tous. Oui, ben tant mieux. Hein, c'est le sport moderne. Maintenant, on arrive à combler ce vide qu'on avait il y a 15 ans. Donc par la piste, le cyclocross, les compétitions internationales qui poussent jusqu'à début novembre maintenant. Oui, voilà. Une activité sportive, cycliste en tout cas, qui est présente.
Voilà, c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est pour faire un petit peu le bilan de votre saison pour votre club. On sait que la saison s'est terminée il y a quelques semaines à travers la gentleman de Poigny, la Forêt. On reviendra aussi naturellement sur le Tour de France qui a été présenté cette semaine. Vous étiez à la présentation de ce Tour 2017 qui me plaît bien, ce Tour de France. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, on est en plein championnat d'Europe sur piste actuellement. Vous en avez de larges échos sur notre antenne tous les matins à 8h45. Donc, on fera un petit peu le point. Et puis, on aura une émission plus spéciale et plus particulière. On reviendra très en détail sur ces championnats d'Europe dès la semaine prochaine. Vous étiez quand même dans les tribunes du Vélodrome hier. Pour l'instant, bah, ça se passe plutôt bien pour l'équipe de France. Première nation, donc 3 médailles d'or, 2 médailles de bronze. Hier, c'est Corentin Hermenot donc, qui remporte le titre donc, en poursuite individuelle. Ça se passe plutôt bien pour cette équipe de France hein, qui est en reconstruction, Olivier.
Tout à fait en construction et puis surtout du côté de ce qu'on appelle les disciplines de temps, donc la poursuite par équipe, poursuite individuelle, qu'on avait complètement perdu de vue depuis, en parlant de 10 ans maintenant, hein, puisque j'irais même le dernier s'était honoré, c'était le père de
oui.
Corentin.
Oui, en 96.
En 87, Philippe qui avait ramené oui. une médaille olympique.
Attends.
Voilà, donc, puis bon, on est en reconstruction, je dirais pour les futurs, dans 4 ans, pour avoir une équipe... performante, peut-être même avant, donc ça sera bien.
Oui, parce qu'on va se rappeler qu'au championnat du monde, hein, l'embellie des championnats du monde de 2015, qu'on a eu l'occasion, Olivier, également de suivre, il y a eu 7 médailles, 5 d'or et 2 donc, de bronze. L'équipe de France avait fini première nation. Depuis, ça s'est un peu moins bien passé. On a été un peu moins bon sur les mondiaux de Londres en 2016. L'équipe de France a complètement loupé hein, ces Jeux Olympiques au Brésil. Certains sont partis, donc on a entamé une reconstruction. Et comme on disait, on peut espérer que cette équipe aille beaucoup plus loin. L'avantage, c'est qu'en cyclisme sur piste, très rapidement, on arrive à renouveler les cadres.
Oui, puis on a un avenir, hein, parce que oui. bon, maintenant, avec Saint-Quentin, on a un super outil, et bon, on y va régulièrement, et puis on voit les jeunes, qui ont 16, 17 ans, même 18 ans maintenant, depuis 2-3 ans, là, on voit qu'on a un potentiel, donc maintenant, il va falloir les monter au niveau, leur donner la maîtrise, puis je pense qu'on a, oui, on a un potentiel derrière et ça peut monter vite.
Alors, Vincent Jacquet estimait à 5 le nombre de médailles qu'on pouvait obtenir. On est dans les prévisions de l'équipe de France. On espère qu'il y aura encore des médailles aujourd'hui parce que ces championnats d'Europe, c'est pas terminé. Ça recommence encore ce matin, je crois, vers 9h30. Et puis, jusqu'à ce soir,
18h.
Ouais, 18h. Donc, venez encore à Saint-Quentin. C'est un beau spectacle, l'ambiance est sympa. Bon, c'est beaucoup moins médiatisé quand même que les championnats du monde. Mais ça reste encore un énorme événement.
Un énorme événement. Maintenant, bon, je dirais, à Saint-Quentin, un gros problème niveau communication. Le vélodrome, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose, parce que faire de la pub sur les affiches juste à 5 km aux alentours, aucune publicité dans les journaux, dans les médias. Bon, il faut vraiment savoir s'ils veulent vraiment rentabiliser le vélodrome. Là, je pense que là, ils ont un gros problème de communication.
Ouais, mais c'est peut-être pas Saint-Quentin, c'est pas l'Union Européenne, parce que.
Oui, mais l'Union Européenne, mais.
Même les programmes qui sont faits, parce que c'est vrai que mercredi, on a eu le demi-fond à 23h. Bon. Certains ont quitté le vélodrome, hein, c'était un peu trop longuet. Oui. Peut-être aurait-il mieux valu mettre donc ce demi-fond à 19h, histoire que les gens arrivent tranquillement, parce que c'est vrai que les finales, c'est le soir. Hein. Le plus gros, donc c'est le soir, il faut le reconnaître.
Oui, puis une pause hier de 2h30 qui est complètement aberrante, alors qu'on ne nous a même pas demandé de faire une organisation entre deux pour animer. On avait prévu de faire une animation avec le département, mais on ne l'a pas proposé. Bon, ça, c'est les programmes UCI. Mais niveau communication, s'ils veulent rentabiliser le vélodrome, il faut faire venir du monde. Il y a même des ventes intérieures, puisqu'on nous interdit de ramener son sandwich. Il y a des ventes intérieures, s'ils veulent faire revenir du monde, il faut faire de la pub. C'est pas en faisant des affiches à 5 km aux alentours du vélodrome une semaine avant qu'on fait venir les gens pour leur faire découvrir le vélodrome. Parce que c'est vrai que le vélodrome, c'est une discipline, la piste, c'est magnifique. On en est comme dans un stade. C'est le problème du vélo, qu'on est toujours en extérieur, donc médiatiser, c'est difficile. Là, on est dans un vélodrome, c'est magnifique à voir, une ambiance qui est magnifique. Mais si on ne fait pas venir les gens, si on ne fait pas de la communication, on ne fera venir personne. On ne fera pas venir, à part les spécialistes du vélo qui aiment le vélo, ils sont là. Mais les autres personnes, on ne peut pas leur faire découvrir. Mmh. Et là, je pense qu'il y a un gros manque de communication dans les journaux. Nos journaux à nous, nos journaux qui sont locaux, il n'y a aucune publicité dans les médias, rien du tout, à part, je dis, les affiches. Donc, je pense qu'ils ont un très gros problème de communication, mais que ce soit sur cette discipline, championnat d'Europe, championnat du monde, la publicité s'est faite d'elle-même.
Ah oui.
Mais les championnats d'Europe.
Très largement. Hein.
Les différentes manifestations, il n'y a pas que le championnat d'Europe,
on atteint quand même les sommets, championnat du monde, championnat d'Europe.
Mais il n'y a aucune publicité, et les autres manifestations qu'il y a aux alentours. Donc, je pense qu'il y a un gros problème là-dessus de communication. On a un super outil qu'on a réclamé depuis plus de 50 ans. Il faudrait s'en servir, parce que si c'est dans 20 ans, s'en servir comme salle de spectacle pour faire juste des concerts, voilà, ça sert à rien.
Alors il y a peut-être l'Union Européenne hein, qui gère ces championnats du monde, il y a la Fédé aussi qui est là, chacun sait trouver
sa place. Pour faire venir les gens au Vélodrome, Saint-Quentin, le consortium de Saint-Quentin, ils ont mis des fonds dedans. Hein. Mm-hmm. C'est quand même 52 millions ce Vélodrome, donc c'est pas rien. S'ils veulent quand même avoir un retour d'investissement, il il faut faire la communication pour faire venir et faire découvrir le vélo sur piste aux autres personnes non adeptes du cyclisme. On fait faire des disciplines, on nous parle du golf, on nous parle bon, du foot depuis des années, mais si on ne fait pas de la publicité pour faire venir d'autres personnes que du monde du vélo, ça n'arrivera pas.
Alors, on a aussi donc rendu hommage à Laurent Fignon, c'était jeudi, hein, puisque la rue, le panneau de la rue Laurent Fignon a été officiellement inauguré. On avait le secrétaire d'État, M. Thierry Braillard, donc à notre micro. On a eu aussi donc, Galopin, hein, et puis on a eu aussi donc la veuve, Valérie Fignon. Et ça a été une belle manifestation, rendu en tout cas donc un immense hommage, surtout très fort par Alain Galopin, qui était son meilleur ami.
Puis son meilleur ami, son entraîneur,
C'était en parallèle des championnats d'Europe, mais c'était un temps fort. Hein.
Oui.
Alors, je voulais simplement dire, toutes ces interviews, tous ces résumés, vous les retrouvez sur notre site internet, en podcast, ainsi que toutes les photos relatant ces championnats d'Europe. Alors, on va donc revenir sur ces championnats. Aujourd'hui, on peut encore avoir des chances de médailles, Olivier ? On va aller finir, peut-être, pourquoi pas faire aussi bien qu'au Mondiaux ?
Oui, parce que je pense qu'il y a la Madison américaine avec Morgan et puis Thomas. Mm-hmm. Je pense qu'on a un bon potentiel. Moi, je suis allé les voir à l'étranger, je suis allé voir au Séjour de Gand, qui est le monument du cycliste sur piste. Ce sont des pistards, ce sont des gens présents. Et puis il y a 3 ans, quand tu as eu Morgan et puis Brian Coquart, c'était dans le vélodrome, c'était la folie, c'était le 14 juillet. Je pense qu'on a un potentiel, puis un public qui pousse nos coureurs, parce que là on a vu Corentin hier, il a bien dit que
quel spectacle,
finir 3 dixièmes, il dit les 3 dixièmes que je conserve, c'est le public qui m'a porté.
Parce
qu'il était quand même à mi-course, il y avait pratiquement 3 secondes 5,
ce qui est énorme,
et qui il finit qu'avec 3 dixièmes, il dit les 3 derniers dixième que j'ai permis de conserver, c'est le public. Et bon, on a cette chance, je vous le dis, cette ambiance dans le vélodrome qui permet d'avoir une motivation pour nos coureurs et de relancer. Donc cet après-midi, encore une chance, on a la Madison, ce qu'on appelle la Madison ou l'américaine, selon les termes. On a du Kering, on a une présentation d'américaine féminine qu'il ne faut pas louper, c'est pas mal.
Oui, il y a 4 finales aujourd'hui, Madison femme, Kering homme, vitesse femme et Madison homme. Donc voilà, ça sera ce qu'on peut regretter quand même, c'est que ces championnats d'Europe tombent en même temps que la fin de la saison de route. Hein. La saison de route, elle s'achève aujourd'hui. Il y a le chrono des Herbiers donc en Vendée. Il y a aussi une épreuve à Abu Dhabi. Ça a peut-être enlevé certaines vedettes comme Chavanel, qui était là quelques jours, mais qui n'est pas resté au bout, comme
Cavendish. Cavendish, Viviani, champion olympique. Oui. Mais bon, après.
Voilà, les 2 épreuves sont écloses.
J'irai, malheureusement, n'est pas que dans notre sport. Je pense que les instances à haut lieu, ils ont un peu pété les plombs, ils sont complètement débordés depuis quelques années. Ils veulent l'appât du fric, hein, si on veut dire. Plein de choses, mais en fin de compte, ils perdent un peu le fil des choses. Bon, c'est pas que dans le vélo, hein, c'est dans pas mal de fédérations, on s'en aperçoit. Mais oui, c'est vrai que tout regroupé en même temps. C'est vrai que 2 mois après les Jeux Olympiques, c'est quand même un moment, c'est difficile, hein, puisqu'il y a eu les championnats du monde, au mois d'avril, après les Jeux Olympiques au mois d'août. C'est vrai que c'est difficile d'avoir une.
Certains sont partis.
On a les 6 jours qui vont commencer, les différents 6 jours qui vont commencer, là, début novembre, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué.
Beaucoup partent en vacances, hein, parmi les pisteurs qu'on a eu l'occasion d'interviewer. Certains s'arrêtent comme les routiers, quoi. C'est vraiment la fin de la saison.
10-15 jours maintenant, plus beaucoup quand même.
C'est vraiment la fin de la saison.
Et puis les pisteurs, je vous dis, il y a les 6 jours qui vont commencer. La série des 6 jours, là, en France, on n'en a plus, malheureusement. On va avoir les 10 séries de 6 jours qui est dans le monde, en Hollande, en Belgique, de différents pays. Voilà, donc la série de saison de pistard va commencer. Donc c'est vrai qu'on a un manque de vedettes et puis de médaillés. Donc surtout, moi, certains médaillés que je me demande d'où ils sont passés, puisqu'on les voit que 2 fois par an au moment des Jeux Olympiques et au moment des Championnats du Monde.
Voilà, je voulais simplement vous dire qu'on aura en principe vers 10h30 un petit direct avec Laurent Boudineau, hein, qui participe à une épreuve de course à pied, les 6 jours de France. Je pense que cette fois-ci, le téléphone devrait fonctionner et on devrait donc avoir Laurent aux alentours de 10h30. Alors Olivier, sur un plan plus j'allais dire personnel, hein, votre club a lui aussi fini sa saison. Ça s'est passé comment ? Ça s'est terminé il y a 3 semaines avec la Gentleman. Ça s'est passé comment cette année 2016 ? Le bilan est plutôt positif ?
Ben, il est positif, il est géré, quoi. Il est plus moyen, géré par rapport aux années. Bon, dans tous les ans, on a la chance d'avoir un coureur qui arrive à sortir, puis nous faire une bonne saison, donc qui nous permet de tirer un peu les autres coureurs. Donc cette année, c'est Anthony Geoffroy, avec 5 victoires individuelles, qui a peu tiré, géré notre palmarès. Après, bon, on a différents compétiteurs qui sont réguliers, qui arrivent à gagner une course ou deux. Des titres, cette année, on n'a pas de titres départementaux, malheureusement. Puis bon, c'est une saison un peu bizarre. Bon, c'est vrai que le temps, puis on a les coureurs.
Il n'a pas fait beau, puis après c'était la canicule.
C'était la canicule d'un seul coup. Bon, après ça s'est géré, les coureurs s'adaptent malheureusement.
Oui.
Puis on arrive à avoir un effectif qui devient assez vieillissant. Donc on a un grand espoir maintenant avec l'école de vélo qui est montée depuis un an. Là, on arrive à avoir 8 bambins maintenant à chaque séance, plus des mini cadets qui arrivent. Donc maintenant c'est géré, il faut qu'on travaille sur l'avenir. Et non, une saison positive, quoi, moyenne. Je dirais moyenne niveau résultat sportif.
Oui. Après, niveau... Il y a eu mieux, quoi.
Il y a eu mieux, on a eu mieux,
bien
sûr. Je vous
ai connu déjà plus euphorique dans certaines années.
Mais après, il ne faut pas s'inquiéter. Je dirais, il y a des passages. Hein. Oui, les générations, on a des coureurs, ben, ça change. Il faut... Puis, ben, je dirais, on est des amateurs, on a une activité à côté. Les coureurs ont des moments, c'est l'activité professionnelle prime. Et puis, bon, ben, on peut avoir des... C'est pas facile de s'entraîner, donc c'est... plus difficile qu'on a un mauvais espace de pouvoir remonter. Donc,
vous étiez combien cette année au club?
Ben, on a 35, toujours on tourne entre 30 et 35 licenciés compétiteurs, hein, puisque nous avons que la compétition. Donc ça, c'est toujours à peu près régulier, même si on a du mal à faire venir les jeunes. Bon, c'est, notre grand espoir, c'est l'école de vélo. Mais bon, le sport cycliste en global, même si les statistiques, je sais pas comment les fédérations trouvent des statistiques comme ça, mais qui disent que c'est positif, nous on le voit pas en tout cas de ce côté-là.
Alors, oui, mais c'est peut-être les disciplines annexes, quoi. La route attire pas autant de monde, mais le BMX, le VTT,
les cyclos sportifs, c'est-à-dire que la compétition maintenant fait que ben les gens, puis comme dans tout sport maintenant, je dirais les gens, ce sont des consommateurs.
Ouais.
Et c'est plus vraiment des sportifs vraiment dans le fond, alliés avec un club. Ce sont des consommateurs. C'est-à-dire que ben, le dimanche, il fait beau, on va aller faire une course. Il fait pas beau, ben, on reste chez nous. Sans se gérer, entre parenthèses, se préoccuper des ordinateurs, qui eux, c'est un gros souci. Mais voilà, c'est des consommateurs. Mais ça, on le rencontre avec différentes disciplines, hein, ça, dans différents sports. Bon, voilà, ça change, donc ça nous moderniser. Et puis bon, c'est vrai qu'aussi, gérer la sécurité sur les routes, on a beau dire, hein, mais ça s'accentue. Hein, le nombre de voitures qui augmente sur les routes, la circulation, bon, sans parler des gros problèmes de plan Vigipirate qu'on a aussi. Maintenant, au niveau organisation des courses, ça commence à être difficile et ça ne va pas s'améliorer, même s'empirer pour l'année 2017. Donc voilà, c'est des choses qu'on a du mal à mettre des coureurs de 15-16 ans sur les routes. Les parents ont du mal parce qu'il y a un risque. Si on a du mal, on diminue ce potentiel, on diminue le nombre de coureurs seniors, ainsi de suite.
C'est vrai qu'on en parle souvent, c'est une des difficultés de votre sport, c'est que bah oui, c'est un sport qu'on pratique sur les routes, avec tout le danger que ça peut donc engendrer. Et puis il y a le coût aussi, parce que acheter un vélo, c'est peut-être pas à la portée de n'importe quelle bourse, tout le matériel, tous les à côté, c'est un sport qui est cher et qui peut être rendu entre guillemets dangereux, donc c'est une des difficultés. Et puis qui prend du temps, hein, parce qu'on peut pas aller s'entraîner une heure. Hein.
Voilà, c'est ça.
Il faut prendre 3 heures, 4 heures sur la route au moins pour une sortie, quoi.
Alors que plusieurs fois dans la
semaine.
Voilà, une course à pied, quand on a fait une heure, déjà, on a fait un petit entraînement. Dans le vélo, une heure, c'est à peine le temps de défouler, quoi, c'est tout. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Puis bon, après aussi, comme on roule sur les routes, dès qu'il fait nuit, on peut plus rouler. Les routes, bon, comme je disais tout à l'heure, avec le nombre de voitures qui augmente. Voilà, bon, c'est une contrainte, mais c'est pour ça que le potentiel de la piste, il faut le développer, le faire connaître aux gens. Sur un vélodrome, là, on a la chance. Nous, on a des coureurs aussi. Pourquoi on a un peu moins de coureurs? Parce qu'on a des coureurs qui s'orientent vers la piste. On a 5-6 coureurs qui font de la piste en permanence. L'hiver, comme été, ils peuvent aller à la piste. De 20h à 22h, ils peuvent aller à la piste. C'est éclairé, il fait froid, même moins 5 dehors, ils peuvent faire de la piste.
Ah oui, par contre, c'est l'avantage de votre sport maintenant.
Voilà, c'est l'avantage de ce sport. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire, faire de la communication sur ce sport, sur la piste. On a un vélodrome qui est magnifique. Il faut le faire connaître. Il faudrait que ça en arrive, comme j'irais pas arriver le summum comme en Belgique. Avoir une compétition par semaine, samedi, dimanche, en Belgique, sur les vélodromes, ils sont utilisés, les vélodromes. Que ce soit le samedi pour les amateurs, le dimanche pour les élites. Voilà, tous les week-ends, pratiquement même en semaine, ils ont des compétitions de piste. Ils n'arrivent pas à le faire. Quand on a une location d'un vélodrome pour faire une manifestation amateur, je ne vous explique pas, c'est pratiquement la moitié du budget d'une association. Donc c'est affreux, quoi. On ne peut pas développer en faisant avec des produits comme ça.
Oui, c'est une question que j'allais poser. Pourquoi pas organiser à Poigny-Rambouillet une épreuve sur piste dans la saison? Pourquoi pas aussi se diversifier puis accueillir pour le BMX ou bien le VTT aussi?
Tout à fait, mais on veut bien, mais j'irais, malheureusement, c'est l'argent qui nous arrête. Mm-hmm. Pour dire une demi-journée, c'est à peu près entre 5 et 6 000 euros.
Ouf.
Pour le vélodrome.
Ouais, donc, ouais,
et ça c'est juste pour l'organisation. Après, vous avez tous les frais annexes. Alors, je suis désolé, pour des associations, on ne peut pas. Mmh. Donc, c'est pour ça que le vélodrome est quasiment peu utilisé. C'est pas possible. En plus, maintenant, avec les plans Vigipirate, chaque personne, on rajoute des sécurités en plus. On arrive à des summums maintenant, c'est affreux. On ne peut pas, même en s'alliant à différents clubs, on y arrive, mais voilà, on peut pas. Chaque club ne peut pas organiser sa compétition.
Mmh. Donc là, vous êtes en plein mercato. Est-ce qu'il y a des coureurs qui arrivent, qui vont signer pour l'an prochain? Parce que ça y est, maintenant, la saison est terminée, elle se termine sur le plan international. Donc maintenant, vous pensez déjà à 2017?
2017, après, je dirais, nous, on ne va pas chercher des coureurs. C'est des coureurs
oui,
en ambiance qui viennent.
Certains sont venus frapper à vos
portes. Non, pour le moment, non. Nous, la saison n'est pas tout à fait terminée, puisque maintenant, je dirais, l'intersaison, ça ne dure même pas une semaine, hein, puisqu'on enchaîne tout de suite.
Incroyable,
on enchaîne tout de suite sur les saisons piste et piste cyclocross.
Oui, enfin, la route, c'est terminée.
La route, c'est terminée, oui.
Après cyclocross et puis piste. Ouais,
voilà, ça enchaîne hein, tout de suite. Hein, la piste, ça y est, c'est reparti. Le cyclocross, ça y est, les premières compétitions, puisque nous, on organise le 20 novembre, on organise le championnat départemental à Imancé. Donc voilà, c'est reparti. Donc l'effectif reste à peu près le même pour le moment. Je dirais que c'est la période à peu près tout le monde, jusqu'à fin novembre, on a les mutations qui sont en cours. Donc pour le moment, non, il n'y a pas de piste.
Mais ils font tout chez vous, parce qu'on peut se spécialiser. Certains, on sait, faisaient leur saison de cyclocross et ne faisaient rien sur la route. Les pistards aussi se spécialisent. À Poigny, ils arrivent à tout
ils
faire.
Font, on a beaucoup qui font un peu tout, mais il faut le retenir, parce qu'un peu tout, c'est qu'ils épuisent les énergies, le potentiel. Et puis d'un seul coup, ils ont des grands coups de fatigue. Et puis on est bon aussi de les tenir, mais bon, des fois. C'est difficile, mais bon, oui, il y en a qui font un peu de tout, il y en a qui se spécialisent, on a des gens qui font que de la piste, du cyclocross un peu moins, on a deux ou trois qui font du cyclocross, voilà, mais c'est vrai qu'après il y en a qui font un peu de tout.
Alors, bilan mitigé, vous l'avez dit au niveau des résultats. Par contre, au niveau des organisations, vous êtes là, par contre, dans vos...
Organisation, on reste le troisième club des Yvelines
voilà,
à niveau
ça.
Organisation.
Dans vos objectifs.
Dans nos objectifs. Après, bon, comme on vous dit, avec les difficultés de pouvoir organiser les courses, c'est pas évident. Donc, on essaie d'organiser de belles courses. On organise en début de saison, sur Orphin, on a la chance... Mm-hmm. On a la chance, nous, de ce côté-là, c'est d'être accueillis par les communes, du canton en haut du territoire. On a toujours été bien accueillis dans toutes ces communes, donc on a la chance de pouvoir organiser, d'être aidé par les mairies. Ça, c'est très important. Donc, on a Orphin. Après, on a sur Saint-Léger aussi, nous organisons une course, donc toujours au mois d'avril-mai. Après, on a notre grande organisation, la Sud-Yvelines, qui est de plus en plus difficile à organiser niveau autorisation, hein, puisque maintenant, on dépend de Mantes. Ça devient assez compliqué. Et donc, on a le Péré en Yvelines l'été. Et puis, on finit sur la fin d'année avec la Gentleman pour clôturer cette année.
Alors ça, c'est vrai que la Gentleman, c'est une tradition. Hein, parce que vous êtes pratiquement un des rares clubs maintenant qui organisez la Gentleman. Hein. Ça n'existe plus, ça. Hein. C'est vraiment un symbole assez charismatique du club de Poigny-Rambouillet. Hein.
Oui, tout à fait. Nous, quand on a commencé le club, à l'époque, il y avait pas loin de 10 à 12 Gentleman entre le mois d'octobre jusqu'à fin novembre. Je dirais maintenant, on en a deux, c'est tout. Mmh. On a la nôtre et puis une autre dans le sud, dans le nord des Yvelines, et puis c'est tout. C'est vrai qu'il n'y en a plus beaucoup, même au niveau. Avant, ça permettait de regrouper aussi des professionnels qui venaient faire gentleman, parce que le but du gentleman, c'est d'être un entraîneur qui pouvait être un professionnel, entraîner un coureur un peu au-dessus de 40 ans, et ça faisait des bonnes équipes. Moi, j'ai connu Darniche, des Gilbert de Colassal, Laurent Fignon, qui est venu à Poigny-la-Forêt. Donc, ça faisait des grandes équipes, ça faisait des grands noms, Daniel Leveau, ça faisait des grands noms qui venaient dans la région, ça attirait du monde. Parce qu'on venait voir les vedettes, Gilbert de Colassal, il passait, je dirais, une demi-journée de dédicace ce jour-là, avec Darniche, des très très grands noms.
Alors, la Sud-Yvelines, c'est quand même le must, c'est l'épreuve référence, c'est l'épreuve phare. Hein. Un mois avant le Tour de France, un petit avant-goût de Tour de France, cette épreuve sur deux jours de quatre étapes avec des maillots très distinctifs, style Tour de France. On connaît déjà les dates, on connaît les lieux, Olivier?
Oui, les dates pour 2007, en plus, on dépend aussi avec les élections, compliqué.
Ça va être compliqué pour 2017.
On ne peut pas organiser les jours des élections.
Quatre dimanches de prix.
Donc c'est pour ça que la Sud-Yvelines sera avancée le 20 mai. l'année prochaine 2017.
Donc on note, c'est le week-end du 20 mai.
Le week-end du 20 mai.
Un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Ouais.
Plutôt, ça fait pratiquement 15 jours, 3 semaines plus tôt. Bon, avec les élections, on ne pouvait pas faire autrement. Hein. Et puis, on se plie au règlement des préfectures. Et j'irai avec une arrivée finale, normalement, qui devrait se dérouler sur les brévières.
D'accord, sur les brévières, effectivement. Et peut-être devant le haras, non,
histoire c'est le but, c'est le but, c'est avec le haras.
Histoire de le valoriser.
Voilà, et puis ça fait partie du rembouillet territoire. Ouais. Et puis aussi le haras des brévières, et puis aussi les nouvelles communes qui vont être accueillies à partir du 1er janvier 2017 dans rembouillet territoire. Donc on va essayer, avec M. Jean-Frédéric Poisson, on essaye de faire connaître ces communes, et puis de nous faire connaître, et puis voilà, de faire connaître les routes du rembouillet territoire qui s'agrandissent tous les ans aux différents coureurs d'Île-de-France et de France, puisqu'on a des clubs de France qui viennent.
Bon, on connaît les dates, on aura naturellement l'occasion d'en reparler, comme nous sommes radio partenaires sur cet événement. Très brièvement, si on veut venir vous rejoindre, Olivier, qu'est-ce qu'on fait? Le prix d'une licence, d'une cotisation, et on téléphone où?
On peut m'appeler moi directement, puis après on prend rendez-vous, déjà par téléphone on prend contact des capacités, de l'objectif de la personne. Je dirais maintenant on va de l'école de vélo qui est ouverte à partir de 8 ans jusqu'à 14 ans, puis après donc on passe à compétition minime cadet, donc j'irai de 8 ans jusqu'à 70 ans, on peut venir. Pour la compétition, en principe on s'arrête sur le coup de 60 ans maximum, mais on peut venir. Et mon numéro de téléphone, il est connu, il est sur le site, on a un site du club, on tapait Union Sportive Poigny Rambouillet sur internet, vous avez toutes les coordonnées. On peut venir tout le long de l'année, on peut prendre des licences. On a deux fédérations, la Fédération Française de Cyclisme, FFC, et la FGT. La FGT permet aux nouveaux compétiteurs de déjà se tester sur les compétitions, puisque c'est une fédération avec des courses un peu moins dures. Donc ça permet de voir déjà si on est apte à faire de la compétition, voir ce que c'est déjà toucher un peu l'ambiance, le frisson des pelotons, et puis après aller dans l'FFC pour s'agrandir. Donc et les licences, ça va de 50 euros la licence jusqu'à 120 euros selon la catégorie.
Et les vélos, naturellement, à la charge du pratiquant, bien tout sûr. Le matériel aussi. Est-ce que les clubs aident et fournissent un peu?
Nous, on essaye d'aider les jeunes. Hein, puis on a des partenaires cyclistes. Là, on a les cycles Jacquier à Rambouillet qui nous aident maintenant, qui aident, qui accueillent, qui conseillent, surtout beaucoup de conseils, puisqu'on a des gens très compétents qui font du vélo. Donc, ils les conseillent techniquement. Puis après, il y a des accords qui sont faits. Mais bon, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits dans les cycles. Hein. J'irai à 500, 600 euros. C'est quand même une somme à investir. Pour un jeune, on peut commencer déjà à avoir un vélo vraiment bien pour la compétition. Puis bien sûr, après, on a des vélos jusqu'à, comme les professionnels, qui peuvent atteindre des sommes phénoménales.
Allez, on met notre baladeur, on enfourche notre bicyclette, on écoute un peu de pub et un peu de musique.
Le meilleur de la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11. Le restaurant Amaris à Rambouillet vous accueille dans un cadre agréable et chaleureux et vous propose de découvrir, le midi du lundi au vendredi, le menu express entrée, plat ou plat dessert à 15 euros. Le menu Amaris entrée, plat, dessert à 19 euros. Le soir du lundi au vendredi, son menu gourmand à 25 euros. Le restaurant Amaris, c'est une carte style brasserie avec ses plats traditionnels composés avec des produits frais du jour. Pour un moment privilégié, professionnel, entre amis ou en famille, choisissez le restaurant Amaris, 73 rue de la Louvière à Rambouillet. Téléphone 01 34 85 62 62.
Briffaut Électricité, entreprise familiale depuis 1981, est votre spécialiste dans les Yvelines pour tous vos travaux électriques. Création et rénovation chez les particuliers comme les professionnels. Nous vous proposons également l'installation d'interphones, de vidéosurveillance et de détecteurs incendie. Briffaut Électricité motorise vos portails, vos portes de garage et assure l'installation et la gestion de votre chauffage électrique. Votre satisfaction est aussi la nôtre. Devis gratuit, dépannage rapide. Informations et réservations au 01 30 46 11 56 ou sur notre site briffaut-électricité.com.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
sport dans votre région avec RVE.
Allez, on va en principe, hein, si ça marche, rejoindre Laurent Boudineau, donc depuis donc Priva. Laurent, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Laurent Boudineau m'entend? Bon, alors
oui,
à part...
Oui, t'entends.
Bonjour Laurent, comment
bonjour
ça
Philippe,
va?
Bonjour à tous.
Comment ça va?
Eh ben, ça va très très bien. la météo pour l'instant est pas avec nous, mais on sait qu'elle va pas être avec nous jusqu'à mercredi. C'est-à-dire qu'en fait, on est sous la pluie.
D'accord, bah nous
et bah écoutez, profitez-en bien si vous nous l'envoyez le plus vite possible, parce qu'à partir de mercredi normalement ça s'arrange. Pour les trois derniers jours, ça s'arrange. On verra bien à ce moment-là.
Très bien. Alors, les six jours de France, ça se passe comment, Laurent?
Alors, les six jours de France, ça fait partie de ce qu'on appelle les courses horaires. Hein, donc, il n'y a pas de distance, entre guillemets, obligatoire à faire, mais il faut courir un certain nombre d'heures. Donc, il y a des six jours, des 24 heures et des six jours. Il y en a un seul en France. C'est celui qui est organisé à Priva tous les ans depuis quelques années.
Alors, c'est une épreuve par équipe, une épreuve individuelle?
Alors c'est essentiellement une épreuve individuelle où on rencontre des marcheurs et des coureurs. Hein. Les deux sont mélangés. Après ça fait un classement à part, hein, mais on va tous ensemble, tout en sachant que les très bons marcheurs arrivent à faire autant de kilomètres ou presque autant de kilomètres que les coureurs, même que les bons coureurs. Quoi,
hein. D'accord. Voilà. Alors, on se prépare comment? Parce que c'est quand même assez particulier comme épreuve. Hein. Faut être endurci à la douleur physique et mentale.
Alors, endurci, oui et non. Quand on a mal, on a mal. Hein. On est comme tout le monde. Hein. Quand on a un coup de moins, on a un coup de moins comme tout le monde. La préparation, effectivement, c'est de la préparation physique générale, c'est de l'endurance, que ce soit en courant ou à VTT, puisque je roule aussi avec le CTR à Rambouillet. Et puis, c'est aussi beaucoup d'envie, quoi. Hein, si t'as pas envie, tu le fais pas.
Oui, c'est ça, c'est ce qui permet de repousser la souffrance, parce que c'est vrai que tout le monde souffre, mais enfin, il y en a qui la supportent mieux que d'autres quand même, hein.
Il y en a qui la supportent mieux que d'autres, et puis surtout, je dirais qu'en termes de préparation, c'est pas quelque chose qui se prépare en un an ou en deux ans. Hein. Moi, ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais de l'ultra-endurance, de la course à pied, puis de l'ultra-endurance, donc en course à pied, que quand j'étais jeune homme, je faisais ce qu'on appelait pas ça de l'ultra-endurance, c'était de la grande randonnée à vélo, puisque j'ai fait des Paris-Brest et autres à vélo. Il y a aussi d'une part un tempérament et puis une accoutumance à l'effort long. On ne court pas sur un marathon, par exemple, comme on court sur un 24 heures ou sur un 6 jours. C'est pas les mêmes rythmes d'effort, c'est pas la même façon de gérer, etc. etc. La préparation, elle est beaucoup autour de la capacité, d'une part, à s'alimenter, à digérer, et d'autre part, à récupérer.
Oui. Voilà. Et puis, il faut bien se connaître, il faut bien connaître son corps, entre autres.
Voilà. Hein, faut bien se connaître, savoir s'écouter, en même temps, de temps en temps, se booster un petit peu, hein, etc., etc. Voilà.
Très
bien. C'est un petit peu ça, la préparation.
Oui. Il y a un objectif, Laurent, que tu aimerais atteindre?
Alors, il y a toujours un objectif, sauf que en six jours, et en particulier, donc et d'une manière générale en ultra-endurance, il peut toujours se passer plein de choses, hein, et on ne sait pas comment ça va se passer. Il y a deux ans, j'avais fait un petit peu plus de 577 kilomètres sur les six jours, donc ça me fait une moyenne de 95 kilomètres jour, hein, à des détails près. Là, cette année, j'aimerais bien dépasser les 600. Si j'étais un petit peu en dessous, je serais un petit peu déçu, mais enfin bon, il y a aussi le plaisir de retrouver un tas de copains et de copines. Et puis j'aimerais bien aller au-dessus. Après on verra. Déjà, il faut passer les trois premiers jours, et en particulier les trois premiers jours de pluie cette année. Et puis après on verra, quoi.
Ouais, parce que on se motive entre soi, on s'entraide, on se dit des petits mots encourageants.
Oui, il y a une il y a quel que soit le niveau du coureur, hein, puisque au cours de cette épreuve, entre autres l'année dernière par exemple, il y en a qui ont fait moins de 100 km. Bon, ça, ce sont des gens qui s'engagent, mais pour simplement accompagner un coureur. Mais je dirais que les performances vont entre 300 et 700 km, hein, un peu de choses près. Mais il y a entre ceux qui sont très costauds et ceux qui sont un petit peu moins entraînés, il y a une solidarité, il y a surtout un respect mutuel qui est énorme. On fait un peu partie d'une petite famille, c'est pas une caste, c'est un peu partie d'une petite famille, et on sait que tous, à un moment donné, même ceux qui sont costauds, ils vont avoir du mal, ils vont avoir mal aux pieds, ils vont avoir mal aux genoux, ils vont avoir mal à la tête, etc., etc., et que, c'est pas en s'invectivant mutuellement qu'on va aller plus loin, bien au-delà, bien au contraire.
Alors, Laurent, pour finir cette interview, il y a Olivier Bourdin, que vous connaissez, vous faites...
Oui, bien sûr, bonjour Olivier.
Ouais, donc, Olivier, voulait vous faire un petit bonjour, et puis être derrière vous pour ces six jours de France.
Bonjour, un appui moral pour vous, puisque ça compte, comme on disait, le moral compte énormément. Six jours, c'est long, c'est physique, moral, c'est très très long, donc un encouragement derrière vous, on vous suit, si on peut vous aider, on vous aide. Bon, on vous pousse.
Alors pas trop fort, que je risque pas de tomber. Mais pour me pousser, c'est pas très très compliqué. Merci de votre propos. Et puis pour me pousser, c'est pas très très compliqué. On peut aller sur le site des 6 jours de France. Mémoire, c'est 6joursdefrance.fr, quelque chose comme ça. Mais ça peut se retrouver assez facilement. Et à partir de ce soir, puisqu'il va le départ est à 16h, il va y avoir un onglet spécial. Pour pouvoir envoyer des messages aux coureurs. Il ne faut pas se mélanger. Il y a un onglet contact qui est vis-à-vis de l'organisateur. Celui-là, il ne sera pas utilisé. Et il y a un onglet contact vis-à-vis des coureurs. Donc moi, j'ai le dossard 69. Et c'est possible de nous envoyer un petit SMS. Et tous les jours, on a une boîte aux lettres avec le résumé des messages qu'on nous a envoyés. C'est très très agréable, surtout à partir de la deuxième partie de course.
Ouais, c'est sûr. Merci en tout cas, Laurent.
N'hésitez pas à nous envoyer un petit mot.
Ouais. Merci Laurent. On va suivre tout ça donc à travers le site internet et puis on en reparle à ton retour, ok?
On en parle à mon retour. Allez. Merci. Okay. Bonne semaine à tous.
Et bonne chance. Salut.
Au revoir.
Voilà, pour Laurent Bouguineau. Alors, je voulais quand même vous rappeler auparavant le trail de Manny les Hameaux. On n'avait pas, malheureusement, on peut pas avoir de direct la semaine dernière, mais j'avais quand même promis de vous donner donc les résultats de cette épreuve. C'était la 7e édition du trail de Manny les Hameaux. Dans l'épreuve des 14 km, c'est Alexandre Gomez de Versailles qui s'est imposé en 57 minutes et 5 secondes. La première féminine est Cécile Gratin-Sénoz. Elle termine 47e en 1h11 minutes et 23 secondes. Dans l'épreuve des 28 km, c'est Bertrand Gans de AC Verneuil qui l'emporte 2h1 minute 28 secondes. Gwendoline Maman, ça ne s'invente pas, termine première féminine et 52e en 2h36 minutes et 25 secondes. Dans l'épreuve de la patrouille, c'est Fabrice Arez des Red Bull qui a effectué les 27 km 500 en 2h17 minutes et 21 secondes. La première féminine, c'est Juliette Radix donc des Biellettes en 2h58 minutes et 16 secondes. Et dans l'épreuve de marche, c'est Alain Barthes qui a marché le plus longtemps avec 9 km et chez les femmes c'est Annie Fosseur 8 km 200. Voilà donc pour ces épreuves de course à pied. On parlait, vous connaissez bien Laurent, on parlait donc aussi du CTR et puis de Lyon, de Poigny, Rambouillet. Vous ne serez pas sur le Téléthon cette année ensemble puisqu'il n'y aura pas d'épreuve de vélo malheureusement.
Malheureusement les contraintes Vigipirate et autres nous permettent pas d'organiser le Téléthon sur Rambouillet. Il y a plusieurs manifestations qui sont déjà annulées, d'autres qui vont être à venir.
La corrida, je crois, est annulée aussi.
La corrida est annulée, le semi-marathon aussi.
De Rambouillet ?
Oui.
L'événement de l'année ?
Il y a des chances que... c'est plein de contraintes et plusieurs événements, même pour nous quand on est sur les routes, ça va être des difficultés pour déposer des dossiers aux préfectures. Daesh a un peu gagné. Parce qu'on faiblit et pour le Téléthon c'est que gros parce que mine de rien c'est quand même une rentrée d'argent qui était pour un de dons qui ne seront pas
les gens pourront jouer de chez eux quand même
c'était quand même faut pas négliger ce pourcentage de manifestations qui rapportait certains endroits on avait des pompiers qui arrivaient à ramener 90 000 euros Rambouillet à sa petite somme qui était pas mal donc ça va être des choses qui vont être difficiles donc ça va être difficile à organiser et de pire en pire sur les routes, tout ce qui est niveau organisation, puis des contraintes même dans les stades, tout ça qui vont être assez dures.
Alors, donc, pas d'épreuve vélo dans le cadre du Téléthon, donc pas de corrida, semi-marathon très compromis. On sait aussi que la course des Quatre Châteaux n'aura pas lieu sur Chevreuse mi-novembre. Vous allez maintenir votre championnat d'Île-de-France de cyclocross parce que vous aviez été obligé l'année dernière de l'annuler.
Ben, on était obligé, on l'a annulé 2 jours avant le départ. Donc, ça fait des contraintes de temps et puis même d'argent, puisque c'est l'investissement d'argent qu'on ne peut pas récupérer. Hein, puisque de ce côté-là, niveau pareil, petite association, on n'y pense pas au lieu. Parce que quand on annule pas le Roland-Garros alors qu'on veut annuler des compétitions à côté, voilà, on revient au même niveau. Hein. Roland-Garros, on veut pas annuler Roland-Garros parce qu'on met des moyens, et par contre, tout ce qui est sport amateur...
c'est peut-être plus concentré quand même, Roland-Garros. Le vélo, c'est étendu, oui, enfin, la course à pied, c'est étendu.
Exemple,
quoi.
Même nous, c'est à Émancé, même... si on espérait avoir 300 pas...
Oui, mais il y a les bois, il y a tout ça, il y a les champs.
Oui, 300 sur, j'irais sur 3 km et 5000 sur 300 mètres. Je pense que les Daesh et compagnie, ils iront, leur choix est vite fait. Enfin bon, mais il faut qu'on arrive à. C'est compliqué, je suis d'accord. Il faut qu'on fasse des gros efforts, mais il va falloir qu'on. Parce qu'il y a plein mal d'associations, c'est mettre en péril l'association aussi. Hein. Si on arrive à manifestation, un an peut-être ça peut passer, 2 ans ça va être compliqué de relancer. Après, il y a les droits préfectures. Oui. Quand la compétition est annulée 2 ans, oui, pour l'organiser, c'est difficile.
C'est qu'à la cause des Quatre Châteaux. Hein. 2 années de suite annulées.
Pour relancer,
Stéphane Schubert va avoir des petits problèmes pour mettre ça. Hein.
Voilà. Après, bon, il y a les moyens à mettre en place. On en est conscient maintenant, voilà, c'est voilà. Bon,
mais pour l'instant, c'est maintenu, Olivier. Donc, le 20 novembre, il n'y aura pas de problème.
Le dossier est déposé, on n'a toujours pas l'arrêté préfectoral.
Ah,
l'arrêté préfectoral n'est toujours pas là. Et puis, bon, comme je vous dis, l'an dernier, on a eu l'arrêté préfectoral. Et puis, 2 jours avant, ça a été annulé. Mais ce qu'on comprend tout à fait, hein, dans le cadre, en plus, c'était 4 jours après le Bataclan. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. On comprend, on subit, mais on comprend tout à fait. Mais maintenant, je dirais, on a des contraintes au niveau organisationnel. Nos organisations sur route l'année prochaine, les dossiers, bon, déjà tous les ans, ils ont augmenté, mais là, ça va être encore pire. Et on n'est pas sûr d'avoir des réponses positives, hein, surtout dans les Yvelines ou autres. Moi, plus dans les Yvelines que je connais. Dans d'autres régions, ils y arrivent plus facilement. Après, j'irai, c'est la mise en place de moyens qui devient de plus en plus compliqué.
Enfin, une épreuve qui aura bien lieu, c'est le Tour de France. Hein. Ça sera donc du 1er au 23 juillet 2017. Ça sera même l'événement sportif de l'année. Hein, parce que quand il n'y a pas de mondial de foot ou bien de Jeux Olympiques, le Tour est l'événement numéro 1 cette année. Il y avait la présentation mardi, vous y étiez comme pratiquement chaque année. Alors, Olivier, c'est vrai que le Tour de France 2017, je l'aime bien. Il est assez bien conçu. On n'a oublié aucun massif montagneux. Seulement 2 étapes. Et ça, c'est bien parce que ça va dynamiser, ça va donner du punch. On va beaucoup moins s'ennuyer que le Tour 2016. Hein. On en avait parlé cette année à la rentrée. On s'était un peu ennuyé en 2016, comme on s'est ennuyé en 2015. Là, ça va dynamiser en tout cas. Donc le Tour, on va le détailler du début à la fin.
ASO, depuis une dizaine d'années maintenant, ils sont formidables. Ils nous donnent tous les terrains qu'on a en France.
Oui,
magnifiques.
Oui, oui.
Tous les terrains susceptibles à faire de la belle compétition, du beau sport, de la niaque, tout ça. Après, c'est les coureurs qui font le tour.
C'est toujours ce qu'on dit. Hein.
Oui, non, mais c'est ce qu'on dit, mais c'est vrai. Si on pouvait mettre. Nous, on l'a vu même dans notre simple petit tour des Yvelines, on avait fait des épreuves. On arrivait à Clairefontaine avec une côte à 15%.
Souvent groupé. C'est vrai.
Et dans le Tour de France, on le voit. D'ailleurs, on le voit que pratiquement Bardet a pas plus gagné le Tour de France parce que c'est le seul qui a osé attaquer. On a beau dire ce qu'on veut, les 5 autres vedettes qui devaient attaquer Froome, ils l'ont pas fait.
Oui, c'est vrai.
Ont beau dire ce qu'ils veulent, mais ils l'ont pas fait. Donc c'est sûr, en n'attaquant pas, on est sûr de pas le combattre.
Est-ce qu'on a les jambes pour attaquer
Froome?
C'est ça le problème.
Bardet, ils les avaient.
Ils avaient le dernier jour de montagne.
Non, ils n'ont pas le dernier jour. C'est qu'il a pris des risques. Il a pris des risques dans cette descente. Parce que, si on se rappelle, Froome est tombé, il se casse la clavicule, c'est Bardet qui gagne le Tour de France. On aurait encore dit, comme il y a 3 ans, oui, mais Froome n'est pas là, donc c'est pas un vrai Tour de France. Si, c'est faux. Parce que la chute fait partie de la course. L'organisation fait partie de la course. Quand Tador, il est tombé, voilà. Donc, si on n'ose pas, on n'y arrive pas.
Et puis, on dit que les coureurs en forme ne tombent jamais, pratiquement. C'est aussi
Ne tombent jamais, et puis voilà. Mais bon, par contre aussi, il faut qu'on arrête. Bon, Jalabert, on en a parlé, et il vous le répète souvent sur les antennes. Faut que les gars, ils en arrivent à enlever leur truc de puissance, les oreillettes. On arrivera à avoir des courses plus animées. Parce que maintenant, les gars sont fixés sur leur compteur. Oh, j'arrive à mes 500 watts de puissance, je vais pas aller au-dessus parce que sinon je vais griller. La preuve, Sagan, pas de compteur, il va au feeling. Qu'est-ce que c'est le meilleur coureur
On va en reparler parce que c'est vraiment le coureur de l'année, Sagan. Il a tout gagné cette année, enfin tout de.
Oui,
c'est un coureur charismatique. Hein.
Il va au feeling. Comme il dit, je regarde dans mon compteur. Quand si à 80 km, je me sens bien, j'attaque. Et j'attaque. Et puis, il a gagné des courses en partant à 80 km de l'arrivée. Maintenant, c'est sûr que si les coureurs, ils regardent From, ils regardent leur compteur, c'est sûr qu'ils ne vont pas l'attaquer souvent. Le seul qui a réussi à attaquer, c'est Bardet, parce qu'il a osé attaquer dans une descente. Il a pris 1 minute 30 quand même dans la descente. Si on revient même sur l'événement du Mont Ventoux, si on n'aurait pas redonné les secondes à From, il aurait eu chaud aux fesses.
Oui, bon, là, il y avait des barrières qui n'étaient pas mises en place.
Mais un tour, à ESO, ils font un super travail. On a tous les terrains qu'il faut, des pavés des années, des monts. Là, cette année, au bout de la quatrième étape, on va avoir une étape de moyenne montagne. Sur du Seldorf, on va arriver à Liège. À Liège, c'est pas facile non plus. Il y a des endroits qui... ESO met tout en place pour avoir un super spectacle. Après, c'est les coureurs qui le font.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le tour, on va partir de Düsseldorf donc le 1er juillet. Hein. Il n'y aura pas beaucoup de contre-la-montre sur ce tour. Il n'y en aura que deux. Un au début, justement, à Düsseldorf.
Mais des purs contre-la-montre.
C'est combien? 13 km, je crois, cela. Et puis, la veille, à Marseille. Devant le stade Vélodrome.
Non, on part du centre du stade du Vélodrome et on arrive au centre.
C'est-à-dire qu'on arrive dans le stade.
Dans le stade.
D'accord,
nous partirons du
super.
Stade. Pareil, il y a plusieurs endroits qu'on va parler. Les contre-la-montre partiront du centre. Du point central du coup d'envoi ils arriveront au point central.
D'accord.
Vraiment phénoménal.
Et là, ça sera 23 km, hein, je
23
crois.
23 km, ce sont des purs contre-la-montre du plat. Sauf qu'à Marseille, il y a monté la Bonne Dame là-haut à l'église, qui a un passage à un moment à 17%.
C'est bien.
Il faudra redescendre de l'autre côté, donc il y aura une difficulté de montagne sur le parcours.
C'est bien. Donc ensuite, on partira par la Belgique, hein, Liège, Verviers, un petit passage par le Luxembourg, et puis ensuite, Longwy jusqu'à Vittel. Là, on peut penser que ça va être au sprint. Après, par contre, la plongée Belfi, c'est le premier grand rendez-vous.
La quatrième étape, on a déjà un bon, une bonne moyenne de montagne. Donc il peut y avoir des écarts, il va falloir être présent. C'est pareil à ESO depuis maintenant. Il faut que le leader soit présent du début à la fin.
Oui, bien sûr.
Il y a 10 ans, le leader pouvait se permettre d'être présent que la dernière semaine. Parce que la première semaine était réservée au sprinter, deuxième au moyen.
Bon, il en faut pour tout le monde ici sur le tour. Oui, hein. C'est ça aussi le Tour de France. Les rouleurs, les grimpeurs, les sprinters. Hein.
À ESO, là, il y a du grimpeur.
C'est pour ça qu'il est bien conçu le tour.
Bien conçu.
Alors ensuite, donc, 3 Nuit Saint-Georges. Là, on peut penser que ça sera aussi au sprint.
Tout à fait.
Et puis là, ensuite on part de Dole pour la station des Rousses. Alors là, on rentre dans le vif du sujet. Tout deuxième grosse étape de montagne.
Difficulté avec deux cols. Alors l'avantage cette année aussi, qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'arrivées en col hors catégorie. Donc ça permet d'attaquer de plus loin.
De loin, oui.
Potentiel d'attaquer plus loin, de faire des écarts. Et voilà, donc, mais pas mal de cols et plus de punch, plus de. Et puis différents massifs. Hein,
Donc autre étape de montagne, Chambéry.
Alors, Chambéry, en plus, on va passer par le Grand Colombier. Un passage à 21%. C'est pour dynamiser, pour casser. Et en plus, il sera à 45 km de l'arrivée, donc ça permet de lancer des barreaux de très loin.
Après, on prend l'avion suite à une journée de repos. On va se reposer donc en Dordogne, à Périgueux. Là, c'est des étapes, j'allais dire, des étapes assez casse-pattes, hein, entre de puncheurs, hein, de baroudeurs entre Périgueux et Bergerac. Et puis également les étapes qui emmèneront à Pau, où on peut penser que ça sera une arrivée au sprint. À Pau, avant donc les deux grosses étapes pyrénéennes, qui emmènera sur Péragude. Et puis une étape très courte, celle du 14 juillet, entre Saint-Giron et Foix.
Oui, très très courte, dynamique.
Là,
pas louper le départ et être présent. Voilà, ça va. Une innovation encore de ASO pour dynamiser ce Tour de France.
Alors après, autre étape pour les baroudeurs, ça sera l'arrivée sur Rodez, et puis sur le puits en Velay. Et puis après, on rattaque la montagne avec Romans-sur-Isère. Et puis là, ensuite, carrément les Alpes, la station de Luc Alphand, Serre-Chevalier. Et puis l'arrivée en haut du mythique col de l'Isoard en passant par le Galibier.
Voilà, là ça va être l'étape d'ailleurs qui sera le départ de l'étape du Tour cyclo qui va être...
D'accord. Et ensuite donc on redescendra sur Marseille, via Salon de Provence, où là on peut penser que ce sera au sprint. Et on Marseille donc ce contre la montre qui sera peut-être décisif, pourquoi pas. Et puis dernière étape classique, on partira de Montgeron devant le réveil matin, l'histoire du vélo.
Tout à fait, l'origine du Tour de France, mais il y a aussi des petites images. Marseille, ASO a essayé de faire voir les sites olympiques. Oui. Futur site olympique.
Oui, 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 oui,
Marseille,
c'est bien.
Pour gérer pour la voile.
La voile, oui.
La dernière étape, on va partir de Montgeron, arriver aux Champs-Élysées, en passant à travers le Grand Palais.
Oui, 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 ça c'est merveilleux aussi.
Le Grand
c'est
Palais
bien.
Qui, si Paris est choisi en 2024, ça sera le site pour l'escrime. Voilà, on va traverser le Grand Palais, les coureurs vont traverser le Grand Palais et visiter les différents sites sur Paris. Donc voilà, c'est des innovations techniques et puis monuments à découvrir encore.
Voilà, on va se régaler hein, du 1er au 23 juillet, naturellement. On en reparlera sur l'antenne d'Hervieux, hein, puisqu'on suit le Tour de France tous les ans. Et ça sera donc un Tour de France long de 3529 km.
Innovation, on va avoir un coureur en moins, par
exemple. Oui, oui.
On va passer de 9 coureurs à 8 coureurs, même si
ça va dynamiser la course.
Les descendants ouais, ouais. À 7 coureurs. Bon, on va déjà passer par l'étape de 8 coureurs. Ça va dynamiser aussi.
Ouais, il va falloir aller chercher sa sélection encore plus
chercher
fortement.
Sa sélection, puis ouais. Voilà, les équipes ont moins de potentiel pour ramener sur les échappées.
Allez, la pub et la musique.
Il est fissuré, la peinture s'écaille, votre plafond vieillit. Creative Design lui donne un coup de jeune et le remplace par un magnifique plafond tendu. Quelle classe! Sans odeur ni poussière, sans déménager, Creative Design vous en assure la pose dans la journée. Fini les plafonds abîmés, cloqués ou humides. Avec Creative Design, votre plafond tendu mat, satiné ou brillant, garanti 10 ans, est tout simplement superbe. Appelez vite Creative Design pour un devis gratuit au 01 58 88 21 20 58 88 21 20.
Le Marquis de Pombal, de rue Louis Leblanc à Rambouillet, vous propose sa formule du lundi midi au vendredi midi à 15,50€. Entrée à volonté, plat du jour, dessert à volonté, un quart de boisson. Le Marquis de Pombal, de rue Louis Leblanc à Rambouillet. Téléphone 01 34 83 02 45.
Alluvert, miroiterie, vitrerie, porte, fenêtre, store, véranda et portail. Jusqu'au 31 octobre, des offres immanquables. Le double vitrage à retardateur d'effraction offert. Tout achat d'une porte d'entrée serrure de sécurité 5 points offert. 35% de remise sur la motorisation d'un portail acheté. Plus d'informations sur les offres Alluvert 06 74 94 94 65.
Bienvenue au Royal de Gazeran à Rambouillet, zone du Bel Air, face au magasin Feu Vert. Votre restaurant vous accueille dans un nouveau cadre convivial, avec un espace enfant, pour un moment entre amis ou en famille, 7 jours sur 7, midi et soir. Le Royal de Gazeran vous propose son buffet à volonté. Entrée, plat, dessert tous les jours. Et aussi la livraison à domicile sur royaldegazeran.fr. Le Royal de Gazeran, zone du Bel Air, 7 rue Gustave Eiffel à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 78 88.
Nouveauté à l'Abbatienne de Menuiserie. Améliorez les performances énergétiques de votre habitation et faites des économies d'énergie en optant pour l'isolation par l'extérieur. Demandez votre devis gratuit au 01 34 85 87 32. 01 34 85 87 32. Abbatienne de Menuiserie, votre spécialiste en menuiserie sur mesure, reconnu au Grenelle de l'Environnement. Showroom, 27 rue de Chartres, opéré en Yvelines. Voir conditions magasin.
Vous voulez devenir propriétaire dans un cadre rural avec une qualité de vie exceptionnelle, avec des équipements adaptés, une école, niveau maternel et primaire, des équipements sportifs, une médiathèque, une salle polyvalente et des associations dynamiques? Pont-Évrard, à 3 km de Saint-Arnaud en Yvelines, est un village dynamique, résidentiel, adapté pour accueillir votre famille. Il est desservi par des lignes de bus régulières et situé à proximité d'une gare routière vers RER et TGV et de l'autoroute A10 à 11. Alors découvrez le lotissement Lorée du Bois en lisière de forêt à Pont-Évrard et il est éligible au prêt à taux zéro. Contactez la mairie, 5 places de la mairie, au 01 30 41 22 13. 01 30 41 22 13. Changez de vie et devenez Ivry Pontin.
J'ai le cœur comme une éponge spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut ta, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Je glande un peu partout avec mon sac de couchage. Je suis dans tous les coups, foireux, tous les naufrages. J'ai des potes qui ont de l'argent, ben ils travaillent, c'est normal. Moi mon métier c'est feignant, eh hey mec, t'as pas 100 balles. J'ai des plans, des combines pour vivre comme un pacha. Eh hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. J'étais étudiant, chômeur, babysitter. Quand je pense que mes parents voulaient que je sois docteur. Parfois quand j'ai du blé, je flambe comme un malade. Pognon, je l'ai pas gagné, mais non, mon métier c'est minable. Waouh, super la routine, hey, salut ta, ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine. J'ai mon matelas dans la cuisine.
Vivez le sport dans votre région avec RVE.
Oui, Olivier, juste une minute pour parler de ce que vous aviez vécu cette année sur le Tour en Normandie. Hein, trois jours, quatre jours assez fabuleux.
Oui, j'ai eu la chance de suivre la première semaine du départ du Mont-Saint-Michel et la présentation des équipes à Sainte-Marie-l'Église. Un site magnifique, hein, la Normandie, la Manche qui accueillit le Tour de France. Des beaux sites, hein, Sainte-Marie-l'Église, Omaha Beach, magnifique, hein, vraiment. En plus, on a eu un temps magnifique au Mont-Saint-Michel. Après, on a eu un peu un temps normand sur les deux étapes suivantes, mais qui a animé. Bon, impressionné par la condition des coureurs qui sont arrivés au départ du Tour de France, comme on les voyait il y a 5 ans à la fin.
Mmh. Et puis, l'homme de l'année qui a fait le spectacle, Peter Sagan.
Peter Sagan, qui a pris la main, le micro du présentateur, qui a présenté lui-même son équipe. Et voilà, c'est vraiment typique à lui, comme dit Bernard Hinault. C'est le seul phénomène que je vois depuis des années.
Merci Olivier d'être venu nous parler de cette abondante actu cycliste. On va remercier Victor, hein, qui a été une nouvelle fois très brillant donc au cours de cette émission. Et puis on prolongera dans le vélo la semaine prochaine avec une émission spéciale sur les championnats d'Europe de cyclisme sur piste qui s'achève aujourd'hui à Saint-Quentin-en-Yvelines. Bon dimanche à toutes et à tous sur l'antenne d'Hervieux et à la semaine prochaine. Salut.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive locale.